Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences, des lettres, de l'art. À Agen.
Bonjour à tous, on a le plaisir en ce début d'année de recevoir Pierre Simon, le secrétaire général de l'Académie.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Et avec vous, on va bien entendu commencer par les vœux de cette année nouvelle, où moi je m'associe simplement à souhaiter une santé, de la joie et de la culture pour tous. Pierre Simon, les vœux de l'Académie.
Merci. Alors tout d'abord, je présente les excuses de notre présidente Bénédicte Bousquet, qui est souffrante et qui comptait bien venir les présenter et qui ne le peut pas. Donc, elle m'a chargé de le faire et j'ai pour cela un double mandat. D'une part, de dire combien l'Académie souhaite qu'il puisse y avoir un vrai travail collectif au sein de l'Académie, poursuivre ce que l'on a engagé. Et d'autre part, que l'Académie souhaite naturellement qu'il puisse y avoir le plus possible de participants à ces manifestations que je présenterai rapidement. Alors, d'abord, qu'on puisse poursuivre ce travail collectif. Académie, ça veut dire réunir les gens. Ça veut dire encourager un travail qui permette d'aller plus loin que ce que chacun pourrait arriver à faire tout seul dans son coin. Et c'est une de nos ambitions les plus fortes hein, que de pouvoir continuer dans ce cadre-là. Nous avons pour cela des travaux de fond, en particulier un travail sur les rues d'Agen. Et au moment précis où je vous parle, le groupe de travail fonctionne. Il se réunit régulièrement une fois par mois depuis le début de l'année 2021. Et il a pour mandat d'arriver à ce que, dans le courant de l'année 2023, on puisse rééditer un ouvrage que l'Académie avait produit il y a 50 ans, en 1973, sur les rues d'Agen racontent leur histoire. Et donc là, il y a cette volonté de mise à jour. Et je suis heureux hein, de pouvoir dire que ce groupe de travail fonctionne régulièrement, d'une manière approfondie, hein, sous l'animation de Francis Stéphanus. Autre travail auquel on s'est attelé l'année dernière, ou même il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, eh bien c'est un travail sur Agen médiéval, et je tiens à le dire parce que, effectivement, certains d'entre vous qui écoutaient cette émission ont pu voir passer parfois un groupe de personnes qui regardent attentivement les maisons. Et là, ça, c'est sous la direction et la responsabilité d'un des meilleurs connaisseurs français des maisons médiévales, Pierre Garrigou-Grandchamp. Nous avons déjà publié un recueil dans le courant de l'année dernière pour faire une sorte de état des lieux de départ. Et depuis, eh bien, le groupe a continué. Le groupe s'est même enrichi de contacts avec l'université, celle de Bordeaux-Montaigne, des contacts avec des partenaires institutionnels, type le service régional de l'archéologie, le service régional de l'inventaire, et d'autres partenaires locaux, en particulier nos amis de l'UDAP, de l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, et du musée d'Agen, ainsi naturellement que de Stéphane Capot, le directeur des archives départementales. Ça, c'est donc nos travaux de fond, mais nous souhaitons vraiment articuler ces travaux de fond avec un contact avec un grand public. Et pour cela, nous avons commencé à concocter un programme qui va s'articuler sur à la fois des séances, donc je dirais entre nous, hein, qui ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois, qui sont là des séances pour les membres adhérents de l'Académie, avec des réunions publiques extérieures. Et cette année, finalement, elles seront assez nombreuses. Nous allons commencer à la mi-avril par une séance à l'extérieur d'Agen, dans le Fumélois, pour avoir une approche sur les sculptures de l'église de Mont-Sampron et d'autre part l'activité industrielle de la vallée de la Lémance. Puis nous aurons, plus exactement juste avant, excusez-moi, nous aurons la séance solennelle qui aura lieu au tout début du mois d'avril. Et ensuite, nous aurons la journée foraine qui aura lieu, elle, au mois de mars, à la mi-juin. Et alors, apothéose, si je puis dire, à la mi-octobre, eh bien, nous aurons le congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest qui se tiendra à Agen. Et donc, comme ça, l'Académie espère pouvoir combiner, en plus, naturellement, de son travail habituel qui paraît dans la revue de la Genêt, un travail approfondi sur les deux thèmes que j'ai dit, et d'autre part, un contact avec un grand public diversifié et élargi, s'appuyant sur Agen, certes, mais aussi souvent sur l'extérieur et le département.
Eh bien, Pierre Simon, on ne peut effectivement qu'être admiratif de la somme de travail du programme que la présidente et vous-même et nos amis ont en chantier pour cette année. C'est une année qui va se terminer, comme vous le disiez, par un bouquet, le bouquet du congrès de la Fédération historique du département, de la région, ce qui est un grand moment, parce que je crois qu'il va dans chacun des départements de la région, et il n'est pas revenu depuis combien de temps
Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de congrès de la Fédération historique à Agen.
Eh bien, voilà une année fort intéressante sur le plan de l'Académie et de l'histoire. On va marquer une pause musicale, parce que c'est bien de travailler, mais il faut aussi, dans la culture, écouter la musique, et en particulier, on va commencer l'année par un concerto pour harpe d'un musicien français du temps de la Révolution, Boieldieu. Bien, mais après cette harpe qui nous a finalement bien auguré de l'année, on va, avec vous, Pierre Simon, suivre un peu la dernière livraison de la revue de l'année, la revue de la Genêt, avec quelques zooms sur quelques articles pour mettre ici ou là un trait pour souligner et rappeler les chroniques qui s'y trouvent aussi à la fin. Cette revue, elle est trimestrielle. On parlera de la prochaine, bien entendu, en ce début d'année. Et tout de suite, un voyage dans la dernière revue, Pierre Simon.
Alors, un voyage qui est très, très diversifié. C'est une revue qu'on pourrait appeler avec des varias, c'est-à-dire des articles variés, puisque cette revue nous permet de revenir sur le bourg de Gontaut au XIIIe et XIVe siècle, pour essayer de suivre son développement, et son développement aussi bien topographique que son développement social, comment les rapports de force un peu évoluent au sein du bourg entre le XIIIe et XIVe siècle. Ensuite, un autre article présente Théophile de Viau, mais non pas, je ne devrais pas dire présente Théophile de Viau, présente la traduction que Théophile de Viau fait d'un poème d'Horace et c'est plus qu'une traduction, c'est un texte qui est bourré d'allusions que notre ami Daniel Christian sait présenter avec l'humour et la perspicacité qui le caractérise. Ensuite, autre auteur à la personnalité marquante, Alain Parayous, qui nous parle d'Hortense Mancini. Alors, je peux comprendre que tout le monde ne sache pas précisément qui est Hortense Mancini. Eh bien, c'était une nièce de Mazarin, une nièce qui avait de la vitalité et qui a eu une vie un peu compliquée que Alain nous présente avec, oserais-je dire, gourmandise. Mais en regard de cette présentation, eh bien, Adrien Anfedac nous commente un tableau qui se trouve dans le musée d'Agen et qui est un tableau qui nous parle d'une autre nièce de Mazarin. Et enfin, Marc Hebb, lui, parle de l'attitude des parlementaires lot-et-garonnais lors du vote de la séparation des Églises et de l'État en 1905. Et alors, Marc, dont vous savez qu'il est aussi un collectionneur invétéré, je dirais même qu'historiquement, c'était d'abord un collectionneur invétéré, et nous permet de publier des illustrations, en particulier des caricatures, qui permettent finalement de sourire un petit peu de ce conflit, qui a été un conflit assez difficile à vivre. Et donc là, Marc à la fois souligne la position différente des élus du département et en même temps, je dirais, l'illustre par quelques caricatures qui nous font sourire finalement d'une situation qui quand même a été à certains moments particulièrement difficile. Alors, si je m'arrête aussi rapidement sur les chroniques, parce que dans la revue, on a des articles de fond, mais on a aussi des articles qui rappellent la vie de l'Académie. Et alors là, pour souligner simplement quelques éléments, il y a là une rapide chronique sur la remise du prix de l'Académie à, tenez-vous bien, Adrien Anfedac, parce que...
Ah oui, le conservateur du musée.
Le conservateur du musée, parce que nous voulions reconnaître sa contribution tout à fait éminente à la vie culturelle sur la ville d'Agen et naturellement l'ensemble du département. Donc l'Académie l'a honoré pour son action. Dans ses chroniques, nous rappelons aussi la journée, alors dite foraine, ça veut dire extérieure, à Agen, oui. Qui a eu lieu au mois d'octobre à Port-Sainte-Marie. Et c'est d'ailleurs le contenu des interventions de cette journée qui nous permettra de bâtir la revue numéro 2 de 2022. Donc, la revue numéro 1 de 2022, c'est donc la revue qui sortira à la fin du mois de mars et qui comprendra les principaux articles des interventions de cette journée avec, en plus, d'autres articles qui seront présentés. Il y a une note de lecture d'une de nos membres, Maïté Bouissi, qui a publié un petit opuscule du maréchal Bugeaud sur la guerre des rues et des maisons. Et pour terminer, eh bien, nous avons un hommage à Marcel Garouste, qui nous a quittés au mois de septembre et qui était un membre fidèle et actif de l'Académie presque jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il est décédé. Et il avait 100 ans. Alors, pour souligner simplement un article particulier, faire un zoom, donc revenir sur l'article écrit par Alain Parayous, Hortense Mancini, qu'il présente, je l'ai dit tout à l'heure, avec gourmandise, parce que...
Le personnage, j'allais dire, le mérite en quelque sorte.
Le personnage... Oui, pour en rester sur Hortense, effectivement, parce que c'est une dame qui était qui était très belle, dit tout le monde, riche en plus, non seulement financièrement, mais de l'appui de son oncle. Et donc, en fait, le dit oncle, alors qu'elle était certainement une de ses nièces, ou sa nièce préférée, l'a mariée avec un mari nettement plus âgé qu'elle, mais bon. D'ailleurs, il écrit Il est probable que le sens moral n'étant pas sa qualité première, Hortense, cette voluptueuse jugea inutile de contrarier son oncle tout en se disant que sa vie d'épouse ne l'empêcherait pas d'égayer son quotidien avec quelques amants.
Oui, c'était un peu l'usage. C'était... Molière nous a fait longtemps sourire et raconter de belles affaires de barbons et voilà. De jeunes demoiselles qui étaient leur épouse.
Oui, mais comme... Oui, mais finalement, les jeunes demoiselles ne restent pas toujours jeunes demoiselles.
C'est ce qui fait l'art de la comédie, monsieur le secrétaire général.
Et oui, et là, voilà. Mais donc, notre ami Alain présente aussi les tribulations, parce que son dernier chapitre s'appelle « Du déclin à la déchéance hein, ». Donc, pour bien montrer que cette demoiselle qui a connu une vie effectivement luxueuse, je dirais même luxuriante, eh bien, est morte dans l'alcool, le regret, et donc une fin de vie extrêmement difficile.
C'est presque surtout, une vie de star que vous nous racontez là.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, Alain parle de la vie tumultueuse hein, d'Hortense. Et donc ça, je crois que c'est effectivement... mais surtout, l'article vaut, certes, pour les informations historiques qui nous sont apportées, mais disons-le en même temps, par la verve bien connue d'Alain Parayous, hein, qui nous offre là une très belle page d'histoire, certes, mais aussi d'humour et finalement peut-être de fascination. Alors, mais cette très belle page est à mettre en regard d'une autre très belle page d'Adrien Anfedac, qui commente un portrait dont on a longtemps cru que c'était le portrait d'Hortense Mancini, mais qui, en fait, eh bien, n'est que le portrait de Diane Gabrielle de Thianges. Je dis « n'est que », mais la dame est certainement tout aussi belle que pouvait l'être notre amie Hortense. Mais surtout, alors là, c'est tout l'art d'Adrien, eh bien, de nous montrer comment, bien que sur le portrait, il soit écrit qu'il s'agit d'Hortense Mancini, eh bien, en fait, des érudits, des spécialistes, ont pu montrer qu'il s'agissait en fait du portrait de Diane Gabrielle de Thianges, hein, qui se trouvait au château d'Aiguillon quand il a été confisqué au moment de la Révolution et remis dans les collections qui deviendront les collections du musée d'Agen et qui sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde qui peut aller visiter. Oui, donc,
puisqu'une grande partie des collections est effectivement récupérée par le département, d'autres malheureusement brûlées, et ainsi que la bibliothèque qui a été récupérée par le fonds de la bibliothèque départementale. Mais il faut dire que ce portrait, en le regardant, et on invite toutes les personnes à aller au musée voir le portrait, parce que là, la reproduction est de qualité, mais il faut voir le tableau lui-même. Le portrait est très, très beau. Hein. Il est vraiment très, très coloré, très, très intéressant à voir. Hein.
Voilà, et parce qu'on est vraiment aussi à un moment, je dirais, d'une sorte sorte d'apogée hein, de la civilisation, je dirais, aristocratique française.
Et voilà, merci pour la revue. Et maintenant qu'on a, j'allais dire, annoncé la prochaine revue sur Port-Sainte-Marie au mois de mars, on va prendre une petite pause musicale et on va continuer à écouter ce concerto pour harpe de Boieldieu avant d'avoir notre dernière partie concernant les travaux de l'Académie. Thank you. Eh bien, Pierre Simon, pour clore cette émission de ce début d'année, les quatre travaux de l'Académie, en quatre chapitres, hein, le premier concernant une sorte de prise de conscience du patrimoine, le deuxième chapitre, un guide de l'archéologie départementale, le troisième, un ouvrage sur une étude sur la Révolution française, d'où notre musique de Boieldieu, bien entendu, et le dernier chapitre sur le Buller de Jean de Valier. Alors, Buller, Pierre Simon, il faudra nous expliquer qu'est-ce qu'un Buller.
Oui, alors, si vous le permettez, je voudrais d'abord redire, ce ne sont pas tout à fait les travaux de l'Académie, ce sont les travaux de membres de l'Académie, mais des travaux qui sont faits à l'extérieur de l'Académie. Je n'en veux pour preuve que le fait que, par exemple, Françoise Paul, quand elle présente le guide archéologique du département, est certes membre du conseil d'administration de l'Académie, mais elle est aussi présidente de l'Association des archéologues de Lot-et-Garonne. Je n'en veux pour preuve que ce qui concerne les travaux du Buller, dont je reviendrai sur ce terme mystérieux, sont faits à l'extérieur de l'Académie pour une publication strictement universitaire, et que, d'autre part, les travaux sur Camézira et les travaux sur Barère, eh bien, sont faits à titre individuel par les personnes qui en ont parlé. Donc l'Académie, dans cette séance, s'intéresse aux travaux qui sont menés par les siens ailleurs qu'à l'Académie. Et il nous semble maintenant, depuis quelques années, que c'est tout à fait important aussi pour l'Académie, hein, de savoir ce qui fait, je dirais, l'essentiel des travaux de ses membres, même si c'est à l'extérieur de l'Académie. Alors, donc, dans ce cadre-là, premier nommé, eh bien, c'est les travaux présentés sur la découverte ou la redécouverte du patrimoine lot-et-garonnais dans le cadre du Camézira. Et c'est Jean-Louis Trézéguet qui a été en son temps trésorier de cette association, qui a rappelé comment le tandem, je dirais, du docteur Chapeyroux et du préfet Feuillolet a vraiment réanimé la conscience que les Lot-et-Garonnais pouvaient avoir de leur patrimoine et en particulier de la nécessité non simplement de le mettre en valeur, mais surtout de le redécouvrir, de l'entretenir. C'était la grande période de l'émission « Chefs-d'œuvre en péril » et je pense que tout ceci a pu aller de pair. Deuxième travaux qui ont été présentés, eh bien, c'est donc Françoise Paul, présidente de l'Association des archéologues, hein, qui nous a présenté la sortie prochaine d'un guide archéologique du Lot-et-Garonne. Alors, et de tout ce qui peut être visible, parce que vous savez que l'archéologie est aujourd'hui, en termes stricts, réservée et contrôlée par la loi. Il ne s'agit pas que tout un chacun s'improvise fouilleur, fasse des trous partout, voilà. Parce que on peut détruire beaucoup de choses en croyant chercher tel ou tel aspect. Hein, et donc, la loi aujourd'hui interdit de fouiller si on n'a pas un mandat clair et précis. Mais là, justement, pour compenser cette interdiction, eh bien, ce guide veille à présenter ce que l'on peut voir aujourd'hui de l'archéologie lot-et-garonnaise. Et je dirais qu'on complémentairement aux travaux anciens que le Camézira a pu mener, aujourd'hui, l'Association des archéologues eh bien, permet à tout un chacun de voir comment, progressivement, on connaît mieux l'archéologie lot-et-garonnaise. Les troisièmes travaux, eh bien, c'est ceux de Maïté Bouissy sur Barère. Alors, Maïté se défend vigoureusement d'être une historienne de la Révolution. Marité est une historienne de Barère. Barère, vous le savez peut-être, était le porte-parole du comité de salut public donc pendant la Révolution. Barère, alors, je dirais, était à la fois le chargé de communication de la Révolution.
Il était la voix.
Il était la voix de la Révolution, mais il était en même temps le chantre. C'est-à-dire que ce n'était pas un pâle chargé de communication, c'était vraiment le poète épique qui savait raconter les armées révolutionnaires aux frontières, qui savait raconter aussi la lutte contre l'aristocratie, les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, Maïté, en fait, est aussi, et surtout même peut-être, une spécialiste de ce qu'on peut appeler la rhétorique de Barrère. Comment Barrère s'exprimait, était certainement un très grand orateur, et que il ne faut pas voir simplement son action révolutionnaire, mais il faut aussi voir la richesse, la passion et je dirais le coffre d'un homme qui a su exprimer des moments particulièrement troublés dans l'histoire de France. Et puis, quatrième intervenant, bon, c'était votre serviteur, qui a parlé d'un de ses travaux qui dure depuis quasiment une trentaine d'années, sur le Bullaire de Vallier. Un Bullaire, c'est quoi? C'est pour l'essentiel un recueil de bulles papales. Et comme par hasard, la quasi-totalité de ces bulles concerne la restitution des dîmes à la fin du XIIIe siècle. Et Bullaire, donc de Vallier, parce que au début du XVIe siècle, en 1520 précisément, un notaire piémontais, venant dans les fourgons de ces fameux évêques italiens présents à Agen, des évêques de la Renaissance, eh bien, a fait un travail très très scrupuleux, je dirais, pour rendre plus commode les archives, d'analyser les bulles qui concernait les restitutions de dîmes dans un très volumineux petit cahier de 500 pages. Et il nous permet de connaître environ 870 restitutions de dîmes de la fin du XIIIe siècle, ce qui est un coup de projecteur complètement fantastique sur la société à cette époque, qui n'était d'ailleurs pas que la société aristocratique, même si c'était majoritairement la société aristocratique, parce que c'était les seigneurs qui s'étaient... Alors, aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut vraiment dire approprié, ou en tout cas qui prélevaient la dîme pour eux, et qui donc tout simplement, ne les rendaient peut-être pas, mais tout simplement les cédaient à l'évêque. C'est pour ça qu'on parle plutôt de cession de dîmes que de restitution de dîmes. Mais on voit aussi des bourgeois, en particulier des bourgeois de Condom, des bourgeois de Mézin, des bourgeois même de Clérac, de Gontaut, qui possédaient des dîmes et qui donc les rendent à l'évêque. D'ailleurs, l'évêque parfois concédait pendant 2, 3, 4 générations de façon à adoucir le choc, parce que ça représente un transfert de richesse extrêmement important et un transfert de richesse qui a beaucoup appauvri la petite noblesse. Donc on voit là, par un geste religieux, eh bien, comment une fraction importante de la société à Genèse à l'époque, eh bien, finalement, a vu son influence beaucoup diminuer. Voilà les quatre travaux qui ont été présentés. C'est donc à peu près une fois tous les 2 ans que l'Académie donne la parole à des personnes qui travaillent par ailleurs pour savoir ce qu'ils font en dehors de leurs travaux à l'Académie.
Eh bien, Pierre Simon, on ne peut que vous remercier de ce compte-rendu, de ces activités diverses et très complètes, de l'activité, autour de l'activité, avec des membres de l'activité. Enfin, je suis content d'avoir, sans doute comme un bon nombre de nos éditeurs, avoir eu un exposé fort clair sur les Bullaire. Maintenant, je pourrais parler du Bullaire comme quelqu'un qui n'en sait pas grand-chose, mais qui sait au moins ce que ça veut dire. Finalement, en ce début d'année, on annonce la prochaine revue du mois de mars, les réunions qui vont suivre, et puis le programme de ce qui a été donné dans les vœux du président sur l'activité de toute l'année à venir. Eh bien, bonne année à tous, meilleurs vœux et bonne santé, et rendez-vous la fois prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
Donc.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences, des lettres, de l'art. À Agen.